Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Depuis la fin du mois d'août, je vous explique comment chaque vendredi, popopop devient popopodcast. Car oui, désormais, chaque vendredi, c'est podcastier. Alors, je vous ai fait le coup du Fridayware ou encore de la chenille qui se transforme en papillon, tout ça. Et vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire « Je vous ai compris !» Comme disait le général de Gaulle qui n'a hélas pas découvert le monde chatoyant des podcasts. Je vais donc vous épargner aujourd'hui le coup du crapaud qui se transforme en prince pour vous rappeler que chaque vendredi, on s'intéresse ici à la planète popcast. Et pour ce dernier numéro de la collection des Maxi Best Pop, j'ai décidé de mettre deux podcasts en lumière, que dis-je, en concurrence, car même si vous avez deux oreilles, il vous sera difficile d'écouter les deux en même temps sans cacophonie podcastique. Alors à ma droite, Sophie-Marie Larouille, comédienne, humoriste, journaliste, scénariste, écrivaine et auteure du podcast « À bientôt de te revoir ». Et à ma gauche, Mehdi Maizi, journaliste fan de rap et surtout journaliste rap et créateur du podcast Le Code sur Apple Music, un podcast qui, comme son nom ne l'indique pas, parle de rap. Qui sortira vainqueur de ce combat? C'est à vous de décider. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Honneur aux dames au pluriel, honneur à Sophie-Marie Larouille et à Charline Roux pour nous présenter le premier podcast.
En trois briques, conversation à bâton rompu, j'ai décidé de relancer cette expression, divagation et fantaisie, le tout avec un invité consentant. Alors je fais la définition en mode pyramide, mais vous, votre inspiration est plutôt du côté Camoulox de la force, on est d'accord?
Exact. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne définition. Merci beaucoup.
Bravo, Farline. Eh bien, bientôt de te revoir.
Oh là là.
Ça ressemble à ça.
Mesdames et messieurs, Augustin Trapenard chez moi.
Salut.
Alors, il est possible que je t'appelle Augustin Trap Musique pendant les 50 minutes qui commencent à partir de maintenant.
Ok.
Voilà, il y a du flan, il y a des chips, elle pique un peu.
Ok.
Il y a ton verre d'eau. Là, il y a mon prix que j'ai gagné.
Je sais, bravo, je l'ai vu en arrivant. J'ai trouvé ça sympa.
Je l'ai mis là, je me suis dit que ça ferait un peu naturel.
Ouais, c'est naturel, c'est à la fois magnifique et un peu triste. C'est super.
De ouf. Ouais.
Et ici donc avec Augustin Trapenard, notre Augustin à nous,
oui,
et ce choix n'a rien de corporette. Hein.
Ah non, mais j'imagine bien.
L'émission était très réussie donc.
Il y a Fabrice Rouel qui est venu aussi, précisons-le.
Fabounet, bien sûr, en moto, il avait froid, il était gelé en arrivant.
Vous l'appelez Fabounet?
Ouais.
Il a toujours froid, Fabounet.
C'est vrai?
Oui, j'ai remarqué, quand il quitte la radio le soir pour aller au théâtre, et qu'il y va en deux roues, il arrive frigorifié, et du coup il a un problème d'élocution pendant les premières minutes de la pièce.
Mais c'est affreux.
Bon. Ici, après, il n'est pas épais.
Ah, il n'est pas épais, non? Avec ses lunettes de soleil et ses mocassins italiens?
Oui.
Non, il n'est pas épais. Mais alors, correspond pas du tout à l'idée que les auditeurs peuvent se faire de Fabrice Drouet.
Bah, il n'est pas épais.
Il n'est pas épais, voilà.
On entendait donc Augustin Trapenard, ici un invité qui se livre volontiers. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez dû travailler plus vivement?
Accoucher au forceps.
Bien sûr, il y en a plein, parce que pour plein de raisons différentes, soit parce qu'ils sont pas habitués, bon maintenant ça va un peu mieux, parce que tout le monde se détend un peu en promo. Bon, moi je fais pas de promo, mais disons qu'en interview, les invités se détendent.
Et c'est peut-être parce qu'il y a pas de promo, justement.
Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Et que aussi, grâce à tout le monde qui fait de la radio, du podcast aujourd'hui, on a compris qu'on n'était pas obligé d'être dans un truc très formel et que, bon, voilà, si on veut un truc très formel, on va sur Wikipédia, en fait. Voilà. Et du coup, y en a certaines, oui, qui, soit ils ont peur parce qu'ils ont peur de pas être assez marrants, mais moi, je m'en fous que les gens soient marrants. Voilà. Soit ils ont peur parce qu'ils ont peur que je me moque d'eux. Mm-hmm. Et le temps qu'ils comprennent que je ne vais pas me moquer d'eux, ils font un petit 10 minutes. Puis après, ils voient bien qu'ils ne risquent rien. Voilà. Et voilà. Donc, ça fait des petits mezzés un peu bizarres au début. Mm-hmm. Genre spaghetti, banana split. Quoi. Ouais. Mais après, ça se calme et tout le monde est très content. Et à la fin, tous, ils disent « Ah, déjà ?» Et ça, c'est là que j'ai gagné.
Alors Sophie-Marie, sans aller jusqu'au Camoulox un peu radical de ma camarade Picard, Charline, c'est vrai que même en écoutant un épisode en entier, on a du mal à déterminer la ligne éditoriale si toutefois vous avez choisi d'en avoir une, de ce podcast, comment la décririez-vous, vous, cette fameuse ligne éditoriale ?
Bah, c'était tout le souhait que j'avais en faisant ce podcast, c'est-à-dire que moi j'ai été formée d'abord à la vie, ensuite j'ai fait...
À l'école de la vie.
Ouais, voilà, j'ai fait BTS la rue, et après j'ai fait une école de journalisme, et j'ai un petit peu secoué tout ça dans un blender géant, parce que je veux dire, dans la vie, il n'y a pas forcément une ligne éditoriale, et même quand on veut qu'il y en ait une, bah, on n'est pas toujours à même de la suivre, voilà. Et donc je me suis dit, ce qui importe, c'est que les gens oublient qu'ils viennent de passer 50 minutes à écouter un podcast, alors que peut-être avant ils allaient pas bien ou ils avaient des soucis ou qu'importe machin. La ligne éditoriale, c'est juste d'apprendre des trucs qu'on n'aurait pas pensé apprendre sur quelqu'un qui est une personnalité plutôt publique pour la plupart des clients de la Bientôt Te Revoir. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est de déstarifier les artistes, quoi. Parce que ça y a rien qui me gonfle plus que la limite chelou de gens qui prennent des photos avec des stars. Et ils s'imaginent que leur vie à eux soit moins bien, alors que souvent ils sont beaucoup plus heureux que les gens qui prennent en photo.
Ou pire.
Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça. Donc, pour que tout se mélange et qu'on ait juste envie de se dire autre chose que on a beau temps, on a de la chance.
Mais c'est vrai qu'on a beau temps, en même temps, on a de la chance.
C'est vrai qu'on a de la chance.
En réalité, la ligne édito, c'est vous et votre fantaisie. Parfois, on apprend plus sur Sophie Marie que sur ce qu'elle cuisine. Pour confesser les gens, votre méthode, en fait, c'est le donnant-donnant.
Ouais, comme comment elle s'appelle, Ségolène Royal, non, c'est elle qui était en win-win, non?
Le win-win. Non, c'était pas Sarkozy, le win-win.
Ah, je pense pas, oui, que je cite Sarkozy, à mon avis, c'est le pas win-win, le genre de la maison.
Non, je n'ai pas l'impression.
Win-win.
Je
sais
plus. Oui, c'est vrai qu'il faut donner pour recevoir. Des fois, moi j'ai l'impression de raconter toute ma life et que c'est un peu trop que je fais ma star, en fait. Bon, voilà. J'espère que c'est pas le cas.
Non.
Mais ouais, je pense que si les gens sont à l'aise, c'est aussi parce qu'ils se sentent en confiance. Ouais. Et qu'ils voient que je suis pas là, les genoux serrés, avec mon brushing que j'ai fait hier, à la galerie commerciale du Auchan, là. Tout bien laqué, elle n'était.
Et donc, on la connaît, cette coupe.
Elle n'était.
On voit. Voilà, merci.
Ah, ça y est, je me souviens, c'est Win-Win au sport d'hiver.
Non.
De quoi? Non.
Ah ouais,
c'était trop loin.
Elle était excellente, celle-là.
Mais est-ce que vous regrettez parfois des confessions que vous avez faites à l'antenne?
Alors, par exemple, hier soir, on a enregistré un épisode et j'ai dit que... Je regarde ma productrice en régie. Et il y a un truc que j'ai peut-être voulu couper parce que j'ai dit qu'il nous faisait chier que les cloches, les cloches le dimanche. Et Notre-Dame qui nous avait fait chier que ça brûle, c'est bon, voilà. Ça, je me suis dit, est-ce qu'on doit couper, par exemple? Oui, il y a des fois où je suis un peu trop à l'aise et un peu, comme je me sens dans ce qu'on appelle, pardon, on est sur France Inter, une safe place, donc un endroit où on se sent en sécurité.
Tout à fait.
Voilà, je traduis pour pas qu'il y ait 50 km de commentaires. Donc des fois, on peut être ce qu'on appelle unsafe dans une safe place. C'est-à-dire qu'on se sent tellement à l'aise qu'on se lâche un peu. Parce que voilà, il faut ouvrir les soupapes un peu comme une écluse. Une écluse, c'est que fermée. Bon, bah voilà, ça ne marche pas.
Ça veut dire que vous habitez près d'une église.
Ou près d'une écluse.
Ou d'une église.
Non, ça n'existe
mais
pas.
Mais ça, c'est excellent.
Ça n'existe pas. Mais oui.
Est-ce que vous avez bu un Red Bull ou quoi?
Red Bull?
Oui.
Non.
Parce que franchement.
Pourquoi? Alors, j'ai également cru comprendre que vous n'aimez pas la pizza cheesy crust, celle avec du fromage à l'intérieur de la pâte. Alors, une ligne éditoriale se dessine quand même.
Ouais.
Pardonnez-moi. Certes, flou, mais pas synonyme d'absence de journalisme, à l'image de cette question que vous avez posée dans l'avant-dernier podcast aux membres du groupe Kyo.
Qu'est-ce que vous enfilez en premier, les chaussettes ou le slip?
Réponse de la commission de la carte de presse pour 2022.
Ah bah alors déjà, je l'ai rendue il y a bien longtemps, la carte de presse. Mais surtout, vous trouvez pas que c'est une question intéressante?
Ça peut être une question intéressante.
Mais c'est-à-dire qu'on ne se la pose pas avant de l'avoir entendue.
Ouais.
Parce que moi, je suis incapable de répondre à cette question, par exemple.
Mais maintenant, on est d'accord qu'on peut prendre une seconde pour y réfléchir.
Absolument.
Voilà.
Maintenant que vous me la posez à moi, parce que vous me la posez à moi aussi, moi, j'enfile d'abord le slip.
Bah, c'est très
chelou. Parce que je me sens plus safe.
C'est vrai?
Parfois dans une unsafe
slip
place.
Donc ça veut dire que vous n'êtes pas pro-naturiste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien tout nu.
Avec les baloches à l'air, non.
Eh ben voilà, c'est ça qui est intéressant. On s'en fout des chaussettes, c'est pour arriver à pourquoi vous n'êtes pas bien les baloches à l'air.
Je trouve ça un peu embarrassant.
Ah bon, pourquoi? Intéressant.
Pour moi, parce que ça... pour la démarche.
La pesanteur.
Pas la pesanteur, justement. Ça devient un peu intime. Hein. Et ensuite, les chaussettes après pour le confort, bien sûr. Mais si vous me demandez si je mets plutôt des chaussettes unies ou des chaussettes à motifs, à carreaux par exemple, là on rentre un peu dans la psychologie du personnage, non ?
Donc en fait, grâce à ma V1, vous êtes en train de créer une V2. Moi,
exactement.
Je suis qu'un exhausteur de questions, hein. C'est bon ?
Exactement.
Je suis en open source, moi il n'y a pas de licence sur mes questions.
Mais alors, moi il y a une question que je me pose à chaque fois que je vous écoute, parce que c'est tellement fluide et ça paraît tellement sans filtre, est-ce que un pro ou prépa en béton armé pour les interviews des invités?
En fait, c'est de l'impro, mais parce que comme j'y pense tout le temps, j'ai pas besoin d'avoir de fiches.
De notes,
ouais. Mais
mmh.
J'y pense tout le temps à cette émission. Dès que je me lève, que je suis n'importe où quand je suis en train de travailler et que à une table régie, quand je suis en tournage, quand je fais l'actrice ou quoi, et qu'il y a quelqu'un qui dit putain, je dis pourquoi tu dis putain comme ça? Est-ce que c'est mon père, je prends ça de mon père. Ok, comment ton père s'énervait? Et j'ai eu un truc de note dans ma tête au quotidien qui fait que je peux. Mais des fois c'est chiant les émissions. Hein. Des fois, j'ai rien à dire parce que je suis fatiguée, que je suis triste, que j'ai un chagrin ou que sais-je.
Bon, c'est comme nous, hein, vous savez, en quotidien.
Exactement.
Mais on tous les jours,
Exactement. On en revient. C'est une attaque directe.
Non.
Je le prends. Non, mais on en revient.
Pour nous deux.
On en revient au fait que la ligne édito, c'est vous, en réalité.
C'est vrai.
Non, mais n'ayez pas l'air désolée.
Non, je suis pas désolée. Mais comme
une mauvaise nouvelle.
J'aime pas l'ostentation, encore une fois, j'ai peur de me la raconter à tout jamais.
Sophie-Marie Larouille ou SML, comme on dit, l'acronyme. On retourne parler de ABDTTR, comme on dit aussi, pour à bientôt.
Mais avec plus de difficultés, apparemment, on le dit.
C'est pas facile à dire, ABDTTR, allez-y.
Non, à bientôt de te revoir, c'est beaucoup plus simple.
Non, ABTTDR.
ABTTDR.
Allez-y.
Non, j'ai pas le temps.
Bref, on parle ensemble de votre podcast juste après Attrape Rêve. C'est un morceau de Polo et Pan.
Thank you.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Broncheurs et broncheuses du monde entier, faites un tonnerre d'applaudissements pour Laurie Pester, s'il vous plaît.
Eh oui, puisque nous parlons aujourd'hui de « À bientôt de te revoir », comme dit la grand-mère de Claire, de Sophie Marie.
Claire Sophie, Léa Marie,
Marie-Sophie, bon, Sophie Marie, là, oui. Dites-moi Marie-Sophie, parmi les...
Sophie Marie.
Dites-moi Sophie Marie,
on reprend depuis le début de l'émission. Voilà.
Dites-moi Sophie Marie, parmi les personnes qui sont venues chiller avec vous, comme vous dites, il y a eu Christine tout court, hein, parce qu'on ne dit plus Christine and the Queens, Benoît Hamon, Vincent Delerme, Valérie Damido, Pénélope Bagieux, Marina Rollman et bien d'autres. Quel lien trouvez-vous par exemple entre Valérie Damido et Benoît Hamon?
C'est des gens. C'est des gens qui montrent un truc et je pense qu'il y a autre chose derrière.
Mm-hmm.
Voilà.
Des gens qui montrent un truc et je pense qu'il y a autre chose derrière.
Oui, c'est des personnalités publiques et je pense que c'est pas aussi facile.
Qui ne se résument pas à leur image.
Oui, voilà.
Voilà.
Ah, vous connaissez ça. Hein.
Oh oui.
Voilà.
Il y a quelque chose à aller fouiller derrière.
Exactement.
Très bien.
Vous l'avez confié dans plusieurs interviews, la target ultime pour vous. C'est PNL.
Bien sûr.
Bon, on connaît le degré de difficulté pour les faire se déplacer. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui figurent sur votre wish list et qui ne sont pas encore passés sur votre canapé?
Bien sûr, il y a Phoebe Waller-Bridge qui est la créatrice.
Ok. Mm-hmm.
De Fleabag, cette excellente série. Hein. Il y a Anne Sylvestre, mais je ne sais même plus si c'est encore possible ou pas.
Voilà. Ça va être difficile, non?
Je crois qu'elle n'est pas...
Mais c'est récent, non?
Mmh. Oui, peut-être un an, non?
Oui,
je sais pas.
C'est pas il y a 5 ans. Non. Mais c'était en tout cas un goal, surtout que là...
Vous pouvez demander à Thierry Ardisson, parce qu'il communique avec les défunts maintenant, lui.
Ouais. Je pense que je respecte, du coup, j'oserais pas la déranger.
Okay.
Sinon, j'aimerais beaucoup recevoir Damso, Booba, ouais. En fait, tout le monde, hein. Bon, voilà, Taubira.
Et alors, dans ce podcast, on ne vous voit pas, on parle comme dans la vraie vie, on pratique le dixième degré, et ça, c'est seulement quand on n'est pas très très en forme, voire le non-sens absolu. Vous recevez sur canapé, en fait, c'est le podcast qui fait se sentir comme à la maison, enfin, comme à la maison quand on n'a rien à y gérer, hein.
Exactement, c'est exactement ça, c'est une très bonne définition. C'est comme à la maison, s'il n'y a pas de lave-vaisselle à vider.
Voilà.
C'est ça, vous avez tout capté.
Entre autres. Alors vos sessions d'enregistrement de podcast se font en public, c'est une manière de poursuivre ce que vous faisiez sur scène avec les stand-up?
Ouais, exactement. Quand j'ai arrêté de jouer mon seul en scène, j'avais envie de continuer à être sur scène, mais j'avais pas envie de jouer le même texte tous les soirs. Mmh. J'avais pas envie d'être toute seule aussi, parce que c'est dur d'être toute seule sur scène. Et donc j'ai laissé passer un peu de temps, et puis voilà, j'ai proposé ce format-là en me disant, franchement, ça peut être sympa, ça peut être cool, quoi. Et puis en fait, l'adhésion des gens est venue assez rapidement. J'ai eu de la chance aussi que ça soit au bon moment comme ça. Et puis maintenant, en fait, à plusieurs reprises, comme c'est la 5e saison, vous le souligniez tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que c'est bon? Peut-être qu'on a compris, on a fait le tour. Et moi, je suis aussi assez sensible dans mon caractère à moi. Donc des fois, je me demande si ça sert à quelque chose qu'on fait. Et puis en fait, comme je suis sensible, bah le lendemain, je me dis, bah oui, ça sert en fait à ce qu'on ait envie d'aller voir jusqu'à lundi prochain. Et ça, c'est déjà pas mal. Et comme je vois, avant, j'acceptais pas, comme j'aime pas l'ostentation, j'acceptais pas de rester à la fin des émissions pour rencontrer les gens et tout, parce que je me disais, vas-y, tu vas faire quoi? Les gens, ils vont venir, ils vont te saucer la couenne et t'embrasser la bague. Et qu'est-ce que
te saucer la couenne?
Ouais. Vous voyez ce que je veux dire?
Non.
Si, si, c'est bon, Antoine.
Te saucer la couenne?
Oui.
Non, sérieusement,
non,
c'est
pas... Non, mais se faire saucer la couenne, quoi. Se faire...
C'était génial.
Oui, voilà, genre...
Ah, d'accord.
Genre ça.
Ok.
Et maintenant,
se faire féliciter, vous voulez dire?
Exactement.
Se faire saucer la
c'est
couenne.
C'est ça, exactement. C'était féliciter à synonyme de saucer la couenne. Ouais. À S dans le dictionnaire. Maintenant, j'accepte de rester, non pas pour me faire saucer la couenne, mais pour qu'on discute avec les gens. Et c'est trop sympa parce qu'ils sont très marrants et que franchement, ils ont plein de trucs à dire et à raconter. Et ils sont juste, enfin, ils sont beaucoup plus marrants que moi, juste ils ne sont pas connus, quoi. Donc, ça me met aussi à une place assez vivante, organique, de trucs où on n'est pas arrivé jamais.
Est-ce que, comme pour un stand-up, quand vous enregistrez, vous êtes à l'affût des rires, ou est-ce que c'est beaucoup plus détendu?
Franchement, c'est plus détendu. Oui. Hein. Oui, parce que c'est très dur, c'est un vrai truc ça, dans le stand-up, où il y a carrément un algorithme de rire, où il faut un rire tous les 30 secondes, machin, nanani, une blague, nanani, une punchline, toutes les 40 secondes, etc. Non, non, là, c'est... En fait, ça m'a vraiment décontractée. Je monte encore parfois sur scène, faire un peu d'impro, dans les comédie clubs de stand-up. Et je dis aux gens, franchement, vous voulez rigoler, moi je veux que vous m'aimiez, on va bien trouver un point d'achoppement au milieu. Mmh. Et je trouve qu'à bientôt te revoir, c'est un peu le même principe, quoi. Mmh. On n'attendait rien de moi, parce que moi j'attends rien de vous. Donc on est là, vous êtes là, faites pas genre, vous êtes pas là, parce que moi je vais pas faire genre, je suis pas là. Donc tranquille, tranquille.
Vous dites aussi, telle une contre-soirée dans la cuisine, une discussion avec Sophie-Marie Larouille et son invité E permet, mine de rien, d'en apprendre plus sur son prochain. Ça, c'est le pitch du podcast. Vous dites souvent, mine de rien.
Oui, et encore, avant, je disais mine de rien, mine de crayon, mais on m'a interdit.
Ah, mais non, c'est plus
la
possible,
halde
ça.
Du... mais franchement, je l'ai dit longtemps. C'est tellement mignon, mine de crayon. C'est trop chou, un crayon.
Oui.
Mm-hmm.
Une croquette. Mm-hmm. C'est trop mignon.
Je préfère saucer la couenne, je crois.
Je vais vous laisser toutes les deux si vous voulez, parce que moi je veux bien saucer de la couenne avec des croquettes, mais il y a des limites à tout quand même.
Bon, pardon, alors
ce podcast, c'est aussi
d'aimer la vie.
C'est aussi le moyen pour votre invité de découvrir une sucrerie, plaisir d'offrir, joie de recevoir, n'est-ce pas, comme on dit.
C'est ça. Ça c'est aussi une obsession parce que ma grand-mère me donne toujours un petit paquet de bonbons ou de bergamote ou de gâteaux quand je m'en vais de chez elle. Mm-hmm. C'est une sorte de tradition et du coup comme je suis obsédée par ma famille, comme à peu près tout le monde sur la planète d'une manière ou d'une autre, en rejet ou en miroir, j'ai adopté ce truc-là, puis ça fait un petit sujet comme ça. Quand je vais chercher ma friandise pour l'inviter, j'essaye de choisir quelque chose qui, je pense, fera réagir la personne.
J'essaie de visualiser, quand vous allez rendre visite à votre grand-mère, voici arrivé le moment de vous quitter, donc elle vous raccompagne à la porte, en te disant « à bientôt de te revoir, ma petite chérie !» Et vous, en vous tendant, un paquet de sucreries.
Tu veux pas des madeleines ? Non ? Qu'est-ce que tu veux ? Je t'offre une soupe ? Non, une tartine ? Un master où tu manges rien.
Ah, c'est dans le désordre.
Oh, bah, y a tout. Elle veut tout donner. Elle un sirop, tu veux un sirop? J'ai du cassis.
Et pas en Picardie?
Non. Dans les Vosges.
Dans les Vosges.
Mais il y a des points d'achoppement.
Des points de jonction. Ah, bon, voilà. Alors, nous aussi, nous avons voulu, tenu à vous faire goûter une petite sucrerie. Une sucrerie que j'aime beaucoup, celle qui pétille dans la bouche. Tenez.
Ah, merci beaucoup. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est des langues qui piquent.
Tenez, Charline. Ah mais merci. Si, Charline. Si, non, Charline, je vous en supplie.
Ah non, je mange pas ça. Ouais. Je sais.
Ah, pas de raison. Ouais. Pas de raison.
Ouais, alors c'est des sucreries d'une célèbre marque.
Avec fizz à la fin.
Ouais, avec
un parce que je ne peux rien dire, moi je la bouche plus.
Le sucre crépite dans la bouche,
oui, ça mousse même.
Ça crépite bien,
ouais, vraiment.
Ça mousse vert.
En fait, il est mort.
Ça mousse beaucoup, là.
Ah ouais, ça pique vraiment.
Ça mousse énormément.
En fait, le problème de ces bonbons-là, c'est déjà qu'ils ne sont pas végétariens. Et la deuxième chose, c'est qu'ils mettent toujours un goût exotique.
Mm-hmm.
Alors que tout le monde sait très bien qu'il y a simplement deux écoles. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 50. Mm-hmm. Les gens veulent coca ou cerise.
Mm-hmm.
C'est simple. Mm-hmm. C'est contrairement
voir les deux.
Contrairement à une idée reçue.
Exactement.
Mm-hmm.
Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Toi, quel c'est bon ce bonbon que j'avais collé sous la table et que je prends un malin plaisir à remâchouiller. Alors le temps de retrouver une diction correcte, je vous propose d'écouter un morceau de Cannibal Life Z.
You want me dead, now I am dead, sir. I am upset, I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though, we are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Now you are dead, though, we are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. I was saying that I
killed you and then you said, I won't kill you despite I'm dead. Don't worry, you will get yours. Then I died and because of that hit, incapacitated me to leave. Then I died and because of that hit, incapacitated me to leave.
Cannibal Life is Dead, et c'est produit par nos amis de chez Born Bad Records. Popopien, vous le savez, je ne connais pas grand-chose au rap. Heureusement, il y a Findus et surtout, il y a Mehdi Maizi. Mehdi Maizi, je vous présente Charline Roux, qui, comme vous, a vécu en Picardie, ce qui explique en partie hein, cette passion pour le sportswear, avec des messages écrits dessus. Ben là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux lire ? Allez vous faire... Bon, ok. Bonjour Charline.
Voir, bonjour. C'est toujours très visuel. Bonjour.
Bonjour, je vous présente Mehdi.
Enchanté.
On est d'accord pour dire que Charline pèse autant dans le rap game Picard que Camini, l'auteur du morceau Marley Gaumont.
Plus.
Encore plus.
Non, mais on nous ramène toujours à Camini, Mehdi, Kamel, Alliance Ethnique.
Ouais, voilà,
on est simple et funky.
Exactement. Donc. Et c'est des morceaux qui vieillissent très bien, je trouve, c'est de Alliance Ethnique. J'aime beaucoup réécouter Alliance Ethnique aujourd'hui. Donc plutôt Kamel que Camini, absolument.
Ok, on est simple et funky, virgule, nous. La citation du jour. Charline, malgré votre poids dans le rap game Picard, vous n'avez jamais été invité du code, le podcast de Mehdi Maizi, mais vous l'avez écouté.
Le meilleur du rap francophone vu de l'intérieur. Fin de citation. Et autant vous dire qu'il n'y a pas croquerie sur le produit, parce que notre invité a un talent inouï pour faire parler les siens d'invités. Et comme ses interviews sont aussi diffusées sur YouTube, on peut voir que ses cascades sont effectuées sans filet. Vous n'avez ni notes, ni fiches, ni quoi que ce soit. Est-ce que c'est la Maizi's Touch, l'art de la conversation, justement ?
Je sais pas, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, effectivement. Je crois que ça vient de ce qu'on disait un petit peu plus tôt avec Antoine, le fait d'avoir tellement écouté de rap et d'en écouter encore énormément aujourd'hui. Je prépare les interviews, mais l'idée, c'est vraiment de laisser place, effectivement, de se faire confiance, en fait, à nous, à sa connaissance, et à la capacité à mettre à l'aise l'artiste. Donc oui, il y a vraiment une envie de montrer une conversation, vraiment.
Et ça m'intéresse quand même, Mehdi, parce que se faire confiance, c'est aussi faire confiance à l'autre.
Absolument.
Ça veut dire qu'il faut que vous soyez exactement sur la même longueur d'onde, pour partir comme ça.
Tout à fait, ce qui n'est pas... Mais c'est du freestyle qui est contrôlé, quand même. Charline dit qu'il n'y a pas de filet, c'est vrai, mais il y a quand même un peu de montage, parfois. Donc des hésitations, on peut gommer ces choses-là. Mais par contre, oui, c'est vrai que je peux me louper. Il y a des interviews qui, quand c'est un match, donc si l'adversaire est pas en forme, le match est pas très agréable à regarder. Et ça m'arrive aussi. Donc effectivement, c'est quand on veut mettre en place, en avant ce truc de discussion, il faut que l'autre ait envie de discuter. Donc ça passe aussi parfois dans le choix. Parfois, je reçois des gens que je suis pas spécialement fan de la musique, mais je sais qu'on va pouvoir avoir une discussion qui, je l'espère, sera intéressante en tout cas.
Mais vous dites au montage gommer peut-être quelques hésitations, mais on ne vous voit jamais être pris à défaut ou au dépourvu. Vous avez toutes les rêves, vous déroulez tous les fils. Est-ce que vous avez une mémoire d'éléphant ou est-ce que vous bossez en amont comme un titan ?
Je pense que j'ai une bonne mémoire sélective. Donc quand il s'agit de rap ou de générique de film, je suis assez bon. Sur plein de choses, je suis pas très bon. Et par contre, non, ce qui est vrai, c'est que je prépare mes interviews énormément, je ne sais pas, mais je les prépare beaucoup. Même s'il y a ce truc de genre j'arrive sans notes, je suis incapable de ne pas noter des choses pendant que j'écoute un album, pendant que je prépare une interview. Même après, je sais pas, même si je continue à faire ça pendant des décennies, je pense que j'aurai toujours ce trac-là et cette peur de mal faire, de décevoir. Vraiment, ça c'est important. Donc je suis obligé de préparer l'interview, bien sûr. Je peux pas arriver, même avec quelqu'un que j'ai interviewé 15 fois, je serais incapable d'arriver les mains dans les poches, vraiment.
Charline, quand vous dites vous avez toutes les refs, c'est une expression picarde.
Toutes les références.
Toutes les références, d'accord. Le code.
Ce serait pas dit avec le même accent.
Le. C'est quoi avec l'accent picarde? Le ref.
Le ref. Plus fermé. Plus.
Toutes les refs. Le code, c'est à retrouver sur Apple Music et sur YouTube et ça sonne comme ça.
Sur Refé, tu cites Aznavour.
Yes.
Enfin, tu cites. On entend Aznavour, en fait. Ouais. C'est pas un feat, hein, mais on entend Aznavour. Pourquoi tu voulais le mettre sur ton album?
Parce que je suis tombé sur l'interview. Et ce qu'il disait dans la phrase, en fait, chercher la définition, en fait, de chef. Et j'arrivais pas à trouver une bonne définition, en vrai, t'as vu, qui me correspondait. Ouais. Et en vrai, il a trouvé la bonne définition, t'as vu, d'un vrai chef. C'est un mec qui travaille, mais qui court pas après l'argent, forcément, t'as vu. Il court après le travail, plus après le succès dans son travail qu'après l'argent.
Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est donc je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien.
Ici avec le rappeur Ninho et en bonus un extrait du titre Refé avec Aznavour dont il vous parle dans l'interview. Ça c'était pour la première émission et depuis d'autres rappeurs se sont succédés comme Soso Maness, Vald, Kalash Criminel, Fianso ou encore Attic. Comment choisissez-vous vos invités, Mehdi?
C'est un mélange de coups de cœur par des artistes comme Lala, Ace ou Ichon, des gens que j'aime beaucoup et qui sont parfois moins exposés. Et aussi, il y a la volonté pour une émission comme Le Code de devenir une émission de référence, donc on est obligé aussi parfois d'avoir les têtes d'affiche du moment et qui sont, donc voilà, c'est un mélange entre, je dirais, têtes d'affiche, les blockbusters du rap, mais aussi les véritables coups de cœur qu'on peut avoir, donc c'est une sorte d'équilibre qu'il faut réussir à trouver, voilà.
Et alors, puisque vous parlez des têtes d'affiche, certaines sont notoirement réticentes quand il s'agit de se livrer en interview, soit pas envie, soit pas besoin, parce que c'est un facteur qui est non négligeable aussi. Chez vous, ils viennent quasiment tous. C'est quoi votre secret pour les faire plier? Je dis ça pour qu'on en profite. Hein.
Non, je crois qu'en fait, c'est le fait d'être là depuis quelques années, mine de rien. Mm-hmm. Pas si longtemps que ça, mais depuis 6-7 ans, d'être assez présent.
Oui, et vous n'êtes pas là par opportunisme.
Non, parce qu'encore une fois, comme je le disais, moi, j'étais là, je suis arrivé, je crois, au moment où ça a commencé à vraiment bien marcher pour le rap, donc j'ai bénéficié de ça, mais pas profité, en tout cas, pas de manière intentionnelle. Et du coup, le fait d'être là depuis longtemps, de les avoir déjà pratiqués en interview, fait qu'ils savent aussi que c'est quelque chose qu'on peut me reprocher, mais moi, je suis pas dans la... Enfin, j'interviewe pas d'hommes politiques, donc je trouve qu'ils, pour moi, ils ne me doivent rien, les artistes. Donc je suis là, et l'idée, c'est vraiment de les mettre à l'aise et de leur permettre de raconter leur histoire. Ils savent qu'ils vont pas se faire piéger. Et je pense que c'est aussi... Et qu'on va parler de rap, vraiment. Moi, c'est ça. Moi, quand là, j'ai eu Aurel San, on a parlé de trucs relativement pointu, de choses dont il va pas forcément parler quand il va aller à C'est à vous. Et c'est ça ma promesse.
Comme quoi, par exemple?
Je sais pas, par exemple, de Kena, qui est un artiste qui était produit par les Neptunes, dont on a un peu oublié. Pour moi, quand j'entends Bébé Bois.
C'est Goodbye to Love.
Exactement. Pointu, je m'entends, mais disons que c'est pas forcément une discussion qu'il va avoir en prime time à la télévision. Okay. Et ça, c'est un peu la promesse, c'est de, on va parler de musique quand on, moi, c'est ce que j'aime faire vraiment. J'adore ces discussions. Et je crois que les artistes aussi, ils n'ont pas tant l'occasion que ça d'en avoir. Au final, il n'y a pas tant d'endroits que ça où on peut parler longtemps de musique. Vraiment, il y a des endroits de promo où on reçoit des artistes, mais parler de musique, c'est toujours un peu compliqué en média. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et je crois que, voilà, ils savent qu'on va parler de ça et pas d'autre chose.
Et comme le dit Charline, vous avez toutes les refs.
Tout à fait.
Les refs. Vous dites que certains vous trouvent trop bienveillants dans vos interviews. Où pensez-vous vous situer sur une échelle qui irait de Stéphane Bern à Élise Lucet?
Alors, je sais pas, au milieu, je sais pas, à Deniso, un truc comme ça. Non mais, c'est marrant, je me souviens de... Il y avait qu'à un moment quelque chose sur... une chaîne que vous connaissez bien, Canal+, et on a le droit de le dire.
Très bien. Ça y est, c'est fait.
Et ça paraît de Michel Deniso. Et Ariane Massenet disait la force de Deniso, et ça qui peut être aussi son défaut, c'est qu'il est fan des artistes. Et moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis fan de rap. Je suis pas forcément fan de tous les artistes, mais je suis fan de ce truc-là qui est le rap. Et je suis admiratif aussi parce que c'est comme Aimé Jacquet dans Les Yeux dans les Bleus, quand il dit vous me verrez jamais critiquer un attaquant, je suis incapable d'être attaquant. Et moi, je suis incapable d'être artiste. Donc, je suis très admiratif des gens qui arrivent à être artiste en artistique. Donc du coup, voilà où je me situe. Je crois, je suis clairement plus Stéphane qu'Élise, hein, il faut bien le reconnaître. mais je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ça et c'est mon style, je crois.
Mais cette bienveillance-là, elle démontre aussi que contrairement à l'idée bien trop souvent partagée, que ce soit du côté des intervieweurs ou des interviewés, le clash, un exercice quelque peu dévoyé au fil des années, bah, c'est pas une nécessité.
Non, non, pas du tout. Enfin, c'en est une si on veut faire du bruit très vite et si on veut attirer un peu, voilà, un pâté de chaland, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, une interview un peu conflictuelle, elle fera peut-être plus de vues ou elle attirera davantage qu'une interview qui est bienveillante où les mecs sont là et parlent des prods des Neptunes dans les années 2003. Effectivement, c'est un peu moins excitant, mais je crois que ça reste plus.
Il y avait la ref.
Ouais, la ref. On n'est pas en Picardie, Antoine Decaux.
Je crois que ça reste, en tout cas. Moi, ça m'arrive maintenant, grâce à YouTube, parfois de réécouter des émissions ou de regarder des émissions télé de 2002, 2003. Et ce qui reste, en fait, c'est pas les clashs du moment. C'est pas atemporel et du coup c'est des trucs qui vieillissent très mal. Par contre, des vraies discussions, je pense que ça peut se regarder même des années après. Donc ouais, c'est ce que j'essaie de faire.
Mehdi, vous dites qu'avec les réseaux sociaux et la multitude de plateformes, les fans de rap découvrent parfois des artistes avant vous.
C'est vrai.
Comment gérez-vous cette course contre la montre en or, hein, puisqu'il s'agit de celle de Kanye West?
Ouais. C'est parfois assez compliqué, mais disons que je pense qu'il faut faire le deuil de la prescription. Ouais. On n'est plus vraiment prescripteur aujourd'hui. Il y a très peu de médias qui sont prescripteurs. C'est très très compliqué. Et dans tous les genres d'ailleurs, puisque Internet a tellement accéléré les choses. Donc,
vous allez voir si on n'est pas prescripteur, nous. Vous allez voir après cette émission, on commence à monter en flèche.
Je le code. Mais en tout cas, moi, je le suis pas vraiment. En tout cas, je me relativise beaucoup quand parfois les gens disent oui. Enfin, je pense que c'est de moins en moins grâce aux médias et de plus en plus grâce aux gens qui eux-mêmes se font leur culture. Donc notre rôle, il est ailleurs. Moi, mon rôle, il est plutôt de raconter quelque chose, d'essayer de décrypter un artiste, mais moins de le faire découvrir. Ça m'arrive encore, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire découvrir des gens aux gens. Ouais, ils sont tellement en avant, ils ont tellement toutes les informations que on est un peu en retard souvent.
Parce que précisons que vous n'êtes pas qu'animateur, intervieweur pour votre média, vous êtes aussi curateur. À vous donc la mission, entre autres, de défricher, de programmer. De toutes ces activités, quelle est la plus chronophage?
En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tout est lié pour moi. C'est tout part de... Je dois tout écouter, en fait. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Ma mission, c'est vraiment de tout écouter. En rap, en tout cas. Et du coup, en fait, après, de là, va découler des playlists, va découler des interviews, va découler des podcasts. Donc, en fait, j'ai l'impression que je fais qu'une seule chose, en fait. C'est écouter de la musique toute la journée et qu'après, je remplis des cases, quoi. Mais tout part, finalement, de cette tâche-là.
Bien, Mehdi, on continue à parler de rap et de podcast dans la suite de Pop-up Podcast avec votre podcast rap, Le Code. Ce sera juste après un classique d'un invité que vous rêvez de recevoir, c'est Jay-Z avec Kanye West, Nigga in Paris.
First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. The Nets could go 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm LIBO, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. What's also hot? I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. What's also hot? Let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick J's. Also hot? Bitch, behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, B-Rolls, moving the next BK. Also hot? Motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack.
Ball so hard, motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all.
Ball so hard.
That shit crack.
That shit crack.
Ain't it, Jay?
Ball so hard.
What she order?
What she order?
Fish filet.
Ball so hard.
Yo, whip so cold.
Whip so cold.
This whole thing.
Ball so hard.
Act like
Why you ever be around motherfuckers like this again? Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh?
I don't even know what that means.
No one knows what it means, but it's provocative.
No, it's not. It
gets the people going.
Fall so hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. Don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine.
I got that hot bitch in my home.
You know how many hot bitches I own? Don't let me get in my zone. 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 The stars is in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone.
France Inter. Antoine Decaune. Pop-pop-pop.
Et Charline Roux, et non, ce n'est pas pop-pop, c'est pop-pop-podcast aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi et nous recevons Mehdi Maizi pour parler de Le Code, son podcast sur Apple Music, où il recevait récemment Refait ça donne ça.
Est-ce que tu as l'impression que les gens ont été peut-être plus durs avec toi qu'avec d'autres, et qui t'ont passé moins de choses?
Franchement, j'aime pas me positionner en victime. Le public n'est pas mon bourreau, il a le droit de penser ce qu'il veut de moi,
okay.
Mais il m'empêchera pas de croire en moi et d'avancer dans la vie. Et voilà, je fais du rap, mais j'aime le rap, mais avec beaucoup de détachement.
Et ça, c'est pas ta raison de vivre.
C'est pas ma raison de vivre, absolument pas.
Et aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée de France, et même si certains politiques qui ressemblent étrangement à Mr. Burns dans Les Simpsons parlent de sous-culture, c'est une culture. Et on est même dans plein dans notre sujet, à savoir dans la pop culture. Comment l'avez-vous vu évoluer, ce rap, Mehdi, depuis que vous avez acheté votre premier album? C'était celui-ci.
Je veux une tasse,
Vanessa, extrait de Première Consultation, l'album de Doc Gynéco, sorti en 96. Comment l'avez-vous donc vu évoluer?
Bah disons que je pense que c'est une histoire assez classique d'une culture de niche qui devient mainstream, en réalité, avec tout ce que ça comporte de bonnes et de mauvaises choses.
Ouais.
Mais aujourd'hui, pour moi, on est même à un moment un peu charnière, je crois, de la culture rap en France, où on est justement devenu une culture mainstream. Mmh. Et toutes les cultures mainstream, à un moment, il va falloir qu'il y ait une nouvelle contre-culture pour la rendre un peu excitante à nouveau, peu novatrice à nouveau. Et je crois que là, on a un peu trop dit ces dernières années, justement, qu'on avait gagné, qu'on était la musique numéro 1, qu'on est numéro 1 des charts. C'est bien, mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait un peu 4 ans de mêmes albums qui se ressemblent, c'est un peu comme Hollywood en ce moment, quoi, où il n'y a que des Marvel. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça, le rap français, maintenant. Donc là, il va être question, je pense, de dynamiter un petit peu tout ça. C'est bien beau d'être numéro 1, mais... voilà, qu'est-ce qui va rester tout ça? Et je crois que là, on a un moment un peu charnière.
Faut être challengé.
Exactement.
Vous établissez un parallèle entre rap et pop, parce que de nombreux rappeurs veulent devenir des pop stars, et qui dit pop star dit forcément discours un peu plus lisse.
Ouais.
Est-ce qu'on peut être rappeur et pop star sans perdre sa street cred, comme je le fais en ce moment même en disant street cred? Est-ce que c'est impossible?
Non, je crois que la street cred n'est plus vraiment une question dans le rap. Et encore une fois, c'est parce que le rap maintenant est devenu plus gros que le hip-hop, justement. Plus gros que ce qu'on entendait par rap au début. Donc aujourd'hui, on a un moment où tout le monde peut rapper. Tout le monde peut sortir un album. Et ça ne posera pas de problème, on le voit. Il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui qui... Mr. V a sorti 2 albums. Les 2 sont platines. Mm-hmm. Et il est en collaboration avec énormément de rappeurs installés qui, eux, ont une street cred, etc. Ça ne pose aucun problème. Donc aujourd'hui, la notion de street crédibilité, elle est plus du tout présente dans le rap. Mm-hmm. C'est une bonne chose, dans le sens où c'est un genre qui s'est ouvert. Et parfois, on peut se dire que c'est une mauvaise chose parce que du coup, tout le monde prend le micro et du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'être passionné par le rap pour en faire. Et puis le rap, à ce truc-là, c'est qu'il a l'air simple. Il l'est pas, mais il a l'air simple. Ouais, ouais. Comme je crois que c'est le hip-hop au sens large, ça a l'air simple d'être DJ, ça a l'air simple de graffer, ça a l'air simple de... Et en fait, ça l'est pas. Mm-hmm. Et du coup, voilà, tout le monde en fait aujourd'hui. Et c'est un peu, on a même l'impression que c'est presque une case à cocher, quand on est un petit peu connu et qu'on a un peu d'influence. Mais je crois que c'est le sens de l'histoire.
Mais aussi une cache à causer, hein.
Et vous apprêtez vous-même, Antoine, d'ailleurs, à sortir un album.
À cacher ma cause.
Ouais. C'est le titre. C'est le titre. C'est pas encore tout à fait prêt, mais.
Je veux écouter ça.
Ceci étant dit, dans le rock, dans la pop, il y a des sous-genres dont les noms sont à peu près connus du grand public. Ouais. Alors que justement, dans les médias grand public, on dit rap, point barre, quelles que soient les nuances, et pourtant assez vaste, hein, entre les genres. Est-ce que ça vous agace?
Non, ça m'agace pas parce que c'est de notre faute. C'est parce que je pense qu'avant de tirer à boulet rouge sur les médias mainstream, il faut que nous aussi on arrive à nommer les sous-genres rap. Et je suis entièrement d'accord avec vous, il y en a vraiment, ça existe depuis toujours. Et nous, les premiers, on les nomme pas, on dit rap. Et alors que effectivement entre bref, on a essayé un petit peu de trouver des genres pour le cloud rap, pour la trap, mais globalement, on a tendance un peu nous à tout mettre derrière le carcan rap. Donc on est un peu les premiers aussi fautifs de ça. Donc
ce qu'on fait pas pour le rock en l'occurrence.
Absolument.
Il y a métal comme il y a mais bon maintenant ça y est, c'est passé dans le langage.
Mais je pense parce que la presse rock, elle est avec ses défauts, mais en tout cas elle est plus expérimentée que la presse rap, donc elle a eu le temps de nommer les genres, de voilà. Et nous, je crois qu'on a encore ce travail à faire. Vraiment, autant le rap est là depuis longtemps en France, autant les médias rap en tant que institution entre guillemets, en tant que média installé, on est un peu au début de cette histoire-là. Ouais. Donc, on a encore un vrai travail à faire. Tout à l'heure, on parlait de parfois être trop bienveillant. C'est une reproche qu'on peut faire quasiment à tous les médias rap. Donc, parce qu'on s'est un peu construit en opposition aux médias traditionnels qui étaient durs avec les rappeurs. Donc nous, on devait les soutenir. Maintenant, je crois que maintenant qu'on a gagné, comme je le disais entre guillemets, il est temps aussi d'apporter un peu de contradiction parfois. Donc c'est pour ça que je parlais de moments charnières pour le rap, mais aussi pour l'écosystème rap au sens large.
Après, il y a aussi la question du traitement du rap dans les médias, avec toujours beaucoup de poncifs, beaucoup de stéréotypes. Vous prenez par exemple l'exemple d'Aya Nakamura, qui n'est pas reçu dans les médias comme elle devrait l'être, ou de Booba, qui pour la plupart des médias est un mec qui s'est battu dans un aéroport. Ouais. Bon, on sent que c'est un sujet sensible pour vous. On ne touche pas au Duc, qui se bat dans les aéroports.
Non, on peut toucher à tout le monde. Par contre, c'est juste... il faut bien se rendre compte que aux États-Unis, Booba serait traité n'importe où comme une véritable légende, parce que c'est une légende dans le genre qu'il est. Aya Nakamura, aujourd'hui, ce qu'elle a accompli, son rayonnement à l'international, c'est incroyable. Mais nous, on préfère faire des blagues sur son nom de famille. C'est quand même lunaire, en réalité. Donc c'est juste, moi, ce truc de manque de respect vis-à-vis des artistes qui viennent globalement du genre rap qui me dérange. Et pas, c'était aussi le cas avec PNL à l'époque quand ils sont arrivés. Donc moi je pense qu'on peut se moquer des rappeurs, hein. On doit même le faire, mais par contre on doit leur donner le respect qu'ils méritent, comme on respecte Vianney ou Kenji Girac, quoi. C'est tout.
Alors puisque vous parlez de respect, il y a une chose étonnante: vous dites que dans le rap ce sont les jeunes qui font la loi, le respect des aînés et la volonté de transmettre une culture n'est pas une évidence. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Ouais, c'est vrai, mais parce que c'est un genre de jeunes, c'est des jeunes qui depuis toujours ont fait la loi dans le rap. C'est globalement, c'est tous les nouveaux genres, les sous-genres de rap dont vous parliez, ils sont dictés parce qu'à un moment, une nouvelle génération, elle en a marre que d'écouter le boom bap ou la trap, ou donc elle va arriver avec une nouvelle proposition, et c'est la force du rap. Donc moi, je pourrais jamais me plaindre de ça, parce que si le rap est encore aussi vif, autant en vie, c'est parce qu'on a à chaque fois des nouvelles générations qui arrivent avec quelque chose de nouveau et qui l'embrassent. Par contre, c'est vrai qu'il y a un travail de transmission qui est pas toujours facile à faire, mais c'est normal puisqu'on est un genre tourné vers la nouveauté. Un album sort le vendredi, le public est déjà là à attendre le vendredi suivant et savoir ce qui va sortir. Donc c'est aussi à nous, médias pour le coup, de mettre en place des formats qui permettent de transmettre justement, et je crois qu'on est en train d'arriver à le faire.
Mehdi Maizi, dans votre podcast Le Code sur Apple Music, vous rêvez d'avoir Jay-Z. Comment commenceriez-vous l'interview? Quelles questions?
Alors déjà, on l'appelle
Jay-Z. On pense au même.
Jean-Zay,
par exemple. Quelle serait votre première question?
Honnêtement, je peux pas vous répondre là parce que je pense que ce serait l'interview que je préparais le plus dans toute ma vie. Donc, et je pense que la première question, elle est extrêmement importante avec Jay-Z. Donc je sais pas, mais je pense que je ferai un truc, j'essaierai de l'impressionner un peu, de sortir un truc vraiment du début de sa carrière pour montrer que je le connais vraiment bien et que je suis meilleur que les autres et que je suis plus légitime. Je sais pas si ça marcherait, mais je pense que j'essaierai de faire un truc comme ça.
Et à l'inverse, quelle est la question à ne jamais poser à un rappeur?
Non, je pense que la question à ne jamais poser globalement en interview, c'est: est-ce que tu peux te présenter? Je pense que c'est le truc le plus feignant possible.
Est-ce que c'est plus feignant que cet album? Ce serait pas celui de la maturité?
Non, mais ça c'est c'est le classique.
C'est classique.
Je suis d'accord. Mais voilà, je pense que demander à quelqu'un de se présenter est quelque chose de quand même assez feignant, quoi. Voilà.
Le Maxi Best Pop Pop Pop
Antoine Decaune.
Le code, c'est à retrouver chaque semaine sur Apple Music et c'est recommandé par Popo Podcast, tout comme À bientôt de te revoir, le podcast de Sophie-Marie Laroui qui se décline désormais en émission télé, une émission à découvrir sur France TV/. 50 ways to leave your lover. Non, ce n'est pas le livre que je suis en train d'écrire, tout simplement car je ne suis pas coach en amour, non, mais le morceau de Paul Simon que je vous propose d'écouter tout de suite.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Fifty Ways to Leave Your Lover, Paul Simon. C'est sur ce son que se termine cette émission et cette collection de Maxi Best Pop. Dès lundi, retour de l'émission en direct. Ah, bon week-end.